Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le club des idées du vendredi. Ce soir, la France assume-t-elle sa politique migratoire ? Cette politique n'est pas menée pour changer le réel. C'est une phrase que lâche le défenseur des droits, Jacques Toubon, dans une interview accordée au Monde deux jours après l'adoption de la loi Asile et Immigration en première lecture à l'Assemblée nationale. Une politique qui n'est pas menée pour changer le réel et pourtant c'est le quotidien de quelques 100 000 demandeurs d'asile et de personnes œuvrant à l'avancée de leur dossier qui risque de changer. Réduction des délais d'examen à 6 mois au lieu de 14, hausse possible de la durée de rétention, carte de séjour attribuée pour 4 ans au lieu d'un an aujourd'hui, voilà 3 points importants de cette nouvelle loi. Des délais de traitement raccourcis qui s'accompagnent également d'une diminution du nombre de réfugiés au final, loi controversée et à tel point que même dans les rangs de la majorité, les abstentions et les absences se sont faites remarquer le soir du vote. À gauche, on dénonce une loi liberticide alors qu'à droite et à l'extrême droite, on crie au laxisme. Mais existe-t-il seulement une vision politique de l'accueil en France ? Il s'agit là de la 17e loi sur l'immigration votée depuis 1985 et à chaque fois une loi s'écrit sur l'autre sans aucune évaluation des précédentes, dénonce certains responsables humanitaires. C'est aussi ici la volonté de s'inscrire dans une politique européenne qui verrouille ses frontières et se focalise sur la gestion des flux. Pourtant la France, par son histoire, a gardé son image de pays d'accueil avec une ambition électorale mais jamais ou rarement de conception politique. Alors la France assume-t-elle sa politique migratoire ? Et ils sont trois pour répondre à cette question ce soir en direct du Bel Air, le bar de la Maison de la Radio. N'hésitez pas à venir nous rejoindre si vous n'êtes pas loin. Bonsoir Aude Lancelin.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vous travaillez notamment pour Le Média, vous animez plusieurs entretiens, Le Monde Libre, l'entretien libre est vraiment politique. On peut aussi vous retrouver dans la revue Le 1 et dans là-bas, si j'y suis, là-bas.org. Brice Couturier avec vous pour en parler. Bonsoir.
Bonsoir Émilie.
Le tour du monde des idées, c'est tous les jours du lundi au vendredi sur France Culture à 11h53 et on peut aussi lire vos chroniques dans le magazine Le Point. Et notre troisième invitée ce soir, c'est Marilyn Baumard. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au Monde et chargée des questions de migration. Alors cette loi Asile, je le disais à l'instant, c'est la 17e loi qui porte sur le sujet depuis 1985 et la troisième seulement dans notre histoire récente qui mélange l'asile, le fait de mettre des personnes à l'abri de dangers, et l'immigration, le fait de venir dans un pays et d'y chercher en premier lieu un emploi. Qu'est-ce que ça dit de la conception de la politique migratoire du gouvernement actuel, Marilyn Baumard ?
À mes yeux, ça dit vraiment beaucoup de choses, ce mélange. Déjà, ça nous rappelle à un point concret, qui est qu'aujourd'hui, l'asile en France, il est géré par le ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'on a un même ministère, une même direction à l'intérieur du ministère qui va gérer l'asile et l'immigration, qui est la Direction générale des étrangers de France. On est dans une structure qui avait été mise en place sous Sarkozy, qui est restée sous François Hollande et qui reste aujourd'hui et qui impose sa patte. Ça pourrait très bien être le ministre de l'égalité des territoires, par exemple, qui s'occupe de l'asile et de la répartition des réfugiés en France. Non, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc vous voyez qu'on est déjà à l'intérieur d'un cadre qui va donner le là et qui va faire que l'asile aujourd'hui est regardé comme partie intégrante de l'immigration.
Comment ça se passe à ce niveau-là chez nos voisins européens ? Est-ce que c'est les ministères de l'Intérieur aussi ?
Alors, il y a des cas vraiment très différents, mais ce qui est intéressant chez nous, c'est que la gauche n'a rien changé, vous voyez, et qu'on se retrouve avec une structure dans laquelle il y a rien de différent depuis 15 ans. Donc tout est dit là, je crois, déjà avec ce mélange.
Aude Lancelin, la gauche n'a rien changé et c'est le ministère de l'Intérieur qui gère la politique migratoire aujourd'hui. Est-ce un problème pour vous aussi ?
Oui, mais je crois en effet que c'est ça le plus frappant, c'est-à-dire que certes, la loi qui vient de passer est très problématique, on va y revenir à plein d'égards, mais enfin il faut quand même souligner qu'elle est dans la continuité totale du quinquennat de François Hollande, par exemple, hein, qui n'avait absolument, en dépit des promesses de campagne, rien fait contre la rétention des enfants. Je parle sous le contrôle de Marilyn Baumard, qui est une très très bonne journaliste sur le dossier migratoire.
La rétention des enfants qui n'avait pas non plus,
abrogé le délit de solidarité. Scandale, des scandales quand même, a priori, pour un parti de gauche. Voilà. Donc, évidemment, le PS est très mal à l'aise en ce moment parce qu'il se sent obligé de critiquer la politique menée par Emmanuel Macron, mais elle n'est que la conséquence de ce qui a déjà été voté en 2015 et 2016.
Brice Couturier, mélanger asile et immigration dans une même loi, est-ce que c'est une bonne piste? Est-ce que c'est un bon point de départ pour vous?
Oui, il y a l'immigration, il y a une immigration, si vous voulez, légale, et puis il y a le droit d'asile qui, probablement, c'est un des grands problèmes du moment, c'est que le droit d'asile a été en fait détourné de sa fonction. C'était normalement la voie idéale d'accès à une forme d'immigration légale, puisqu'il s'agit de respecter notre tradition d'accueil de tous ceux qui sont persécutés pour leurs opinions politiques ou pour leurs opinions religieuses. Or, progressivement, c'est devenu le dernier recours, en fait, des immigrés qui ont été déboutés des autres procédures. Et c'est ce que explique Gérard Collomb à longueur d'interview. C'est pas la mission idéale de la demande d'asile. Le problème, si vous voulez, c'est que cette loi, vous avez raison de souligner, c'est la 17e, alors que depuis 1981. Donc ça montre bien qu'il y a un problème et qu'il n'est pas résolu. Et il n'est pas résolu, il ne peut pas l'être, puisqu'en réalité, l'Europe, vu les accords de Schengen, est un espace de circulation ouvert. Par conséquent, d'ailleurs, le projet de loi le dit dès son introduction, la politique migratoire ne peut être qu'une politique européenne, en réalité. La France, elle peut faire ce qu'elle veut, mais tant qu'il n'y a pas une harmonisation des procédures et des règlements à l'échelle de l'Europe entière, tant qu'il n'y a pas surtout une politique migratoire délibérée, décidée à l'échelle de l'Europe, la France peut faire ce qu'elle veut. Elle balaye, mais tout ça est très moyen. Je voudrais juste souligner quand même une chose, c'est que ce débat et ce vote ont montré quelque chose d'intéressant. C'est qu'on le disait, il y a un membre de La République En Marche qui a voté contre, Jean-Michel Clément, et il s'était immédiatement auto-exclu du groupe. Vous avez aussi un membre du Modem qui a voté contre. Et vous avez quand même, par contre, 15 membres de l'UDI et d'Agir, c'est-à-dire la droite favorable au gouvernement, qui ont voté pour. Donc on voit bien que cette loi aussi provoque une espèce de redistribution, enfin contribue à la redistribution générale des cartes politiques. Et autre observation, il n'y a pas de frondeur au groupe LaREM, parce que dès qu'il y en a un qui vote contre, il est viré.
Bah justement, on allait y venir plus tard, mais on va y venir maintenant puisque vous ouvrez le débat à ce sujet, Brice Couturier. C'est le texte de loi le plus mal voté depuis le début du mandat Macron. 58% des députés présents dans l'hémicycle dimanche soir dernier et 228 voix pour, 193 voix contre, 24 abstentions. 14 élus La République En Marche se sont abstenus. Et est-ce que le vote de cette loi, Marilyn Baumard, ne met pas en évidence un malaise de la parole politique gouvernementale dès qu'il s'agit d'immigration?
Alors, c'est certain, mais je voudrais juste revenir sur une chose quand même que vous avez dit, Brice Couturier, qu'on ne peut pas vraiment laisser dire, c'est que la demande d'asile est dévoyée et que c'est le dernier recours. Non, c'est pas vrai. Les demandeurs d'asile, ils arrivent, ils demandent l'asile. Ils avaient 120 jours pour le faire. Aujourd'hui, ils ont 90 jours avec la nouvelle loi. Donc, ça prouve bien que c'est quelque chose qu'on fait en première instance. Donc, on peut tout de même pas laisser dire ce genre de choses. Pour le côté mal voté, ben oui, c'est certain. Et c'est vrai que moi, j'ai parlé à des députés qui m'ont dit, écoutez, nous, on apprend le métier. On vient de passer une semaine, parce que c'est vrai que ça a été une semaine folle, à l'Assemblée, avec des débats qui terminaient à 1h30 du matin toutes les nuits. Ce serait aujourd'hui, alors il me parlait le dimanche, c'est-à-dire le jour du vote. Et il me disait, on a décidé qu'on n'allait pas voter contre, mais aujourd'hui, on reprendrait les choses au début. On vient de vivre là un stage accéléré de politique et on réagirait différemment. Et regardez ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec le texte de Borloo là sur le rapport Borloo sur les banlieues. Ils prennent les devants et ils sont déjà une soixantaine à avoir fait une tribune pour dire attention, les banlieues, les quartiers, c'est quelque chose d'important. On sera là, on va surveiller. Il faut qu'il y ait des choses qui bougent. Donc ce qu'on voit, c'est que ces députés jeunes, étant pour beaucoup dans un premier mandat, se sont un peu fait avoir.
Ils ont eu peur de Ferrand, bien sûr.
Ils ont eu peur de Ferrand, ils ont eu peur d'être exclus. Ils se sont rendus compte que des gens comme Mathieu Orphelin, qui avait un peu plus d'expérience, disaient « moi, de toute façon, je ne la voterai pas, cette loi », et qu'il n'allait pas se faire taper sur les doigts. Donc, vous voyez, le dernier jour, il y avait une sorte de cristallisation des mécontentements qui aussi va tout à fait avec l'idée qu'il y a une recomposition politique autour de ces sujets et que les clivages droite-gauche ne sont pas forcément là sur le... sur ce texte, mais il y a eu une grande déception pour eux, quoi.
Et d'ailleurs, beaucoup de députés ont préféré s'absenter plutôt que de s'abstenir. Ça montre d'ailleurs une grande surveillance et des consignes venues notamment du chef de file du groupe La République En Marche à l'Assemblée, Richard Ferrand. Aude Lancelin, le fait que tous ces députés La République En Marche de la majorité donc aient été appelés à voter comme un seul homme, ça montre que le gouvernement veut à tout prix se donner la force d'assumer sa politique migratoire, qu'elle n'a pas, qu'il faut que tout le monde soit derrière.
Écoutez, c'est forcément très inquiétant. S'il n'y a pas cette liberté de la part de la représentation nationale, c'est qu'il n'y a pas aucune marge de manœuvre par rapport aux décisions présidentielles. Donc voilà, il ne faudrait pas non plus que la question migratoire devienne en quelque sorte le supplément d'âme des macronistes, si vous voulez. Un supplément d'âme qui ne mange pas de pain non plus, parce que en définitive ils s'abstiennent, ils s'absentent, mais ils savent que la loi sera votée. Donc c'est aussi tout de même une absence de courage, et on ne peut que saluer le juste en l'occurrence, qui a préféré renoncer à son appartenance au groupe parlementaire.
Et le système de groupe tel qu'il est pensé à l'Assemblée nationale, Brice Couturier, est-ce qu'il empêche de laisser émerger le débat politique, et notamment sur cette question ?
Je voudrais juste citer Michel Tribala, qui dit dans Le Figaro il y a peu de temps « La demande d'asile, au-delà de sa vocation traditionnelle, est devenue le moyen de tenter de régulariser sa situation quand on n'a aucun autre motif à faire valoir. C'est un peu la solution de la dernière chance pour obtenir un statut. » Alors donc, vous n'êtes pas d'accord avec cette idée, mais vous voyez que je ne suis pas le seul à la défendre.
Oui, mais c'est erroné tout de même du point de vue des faits, puisque... Il y a un regroupement familial.
Il y a d'autres. Vous savez bien que, en fait,
on a 90 jours pour déposer sa demande d'asile, donc on voit bien que ça peut pas être un dernier recours. Ce qui se passe, c'est pas ça. C'est qu'ils demandent d'abord l'asile, et parfois ils sont aussi malades, parce que quand on a vécu ce qu'ils ont vécu, et ensuite ils vont faire une demande comme étranger malade. Donc oui, certaines personnes viennent dire ensuite, bah regardez, ils n'étaient même pas demandeurs d'asile, puisqu'aujourd'hui ils sont malades. Vous voyez ? Donc il faut aussi faire attention et mesurer l'état psychologique de ces gens-là.
Mais quelle était votre question ?
Juste une question sur le système politique tel que le débat à l'Assemblée l'a révélé, sur la question de la loi asile et immigration.
Ça me gêne de le dire en l'absence de tout représentant de la droite autour de cette table, mais il y a une chose qui m'a beaucoup frappé dans ce débat, c'est la convergence qu'on n'avait jamais vue à ce point entre les Républicains et le Front National. On n'avait jamais vu, à part sur ce dossier de l'immigration, une telle convergence politique. Elle est très curieuse, enfin elle est très intéressante, parce qu'elle montre qu'effectivement, la République En Marche et ses alliés du Modem et ceux de la droite et du centre sont arrivés à occuper tellement l'espace politique que la droite en est réduite à une portion congrue, et que les convergences entre Wauquiez et le Front National sont de plus en plus évidentes sur ce sujet-là et sur d'autres. Ça va être un problème, si vous voulez, parce que ça veut dire que les alternances vont devenir difficiles.
Mais cette convergence entre la droite et l'extrême droite, comme vous le dites, Brice Couturier, est-ce qu'elle n'a pas été rendue possible par le vocabulaire même employé par le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui n'hésitait pas à parler de régions submergées par les flux de demandeurs d'asile ? Il utilise quand même des mots de la droite et de l'extrême droite. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde.
Ça, c'était Rocard qui disait ça. Hein. Michel Rocard n'était pas
Gérard Collomb l'a dit aussi.
Mais on doit en prendre sa part, disait-il aussi.
Et quand bien même ce serait vrai que les régions sont aujourd'hui submergées, et donc vérité complètement discutable, est-ce qu'une politique migratoire telle que pensée actuellement par la loi Asile et Immigration pourrait régler un tel problème, Marilyn Bomard ?
Alors, déjà, ce qu'il faut voir d'un point de vue politique, c'est que ce que vous citez là, c'est ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur devant la commission des lois. Ça, c'était le 3 avril. Quand il a fait son discours, donc là, il a fait un discours vraiment très violent, effectivement, avec des images lui-même du Front National, qui est l'image de la création d'une nouvelle ville chaque année. Est-ce que vous croyez que la France peut en gros se payer ce luxe-là ? Et puis, 15 jours après, il se fait bien taper sur les doigts tout de même, et c'est là qu'on est dans le regard global sur le sujet par l'Élysée, qui n'apprécie pas du tout cette façon de présenter les choses. Et lorsqu'il parle cette fois devant l'Assemblée, devant l'hémicycle, il n'est plus du tout sur un discours dans cette tonalité. Il est sur un discours beaucoup plus « nous devons respecter l'asile et contrôler les flux », en gros. Donc on n'est plus dans ces images, le champ sémantique a totalement changé, c'est le champ lexical, on est vraiment dans quelque chose de totalement différent, qui montre bien le côté mal à l'aise.
Exactement, et le fait justement que le gouvernement dit ne pas assumer, avoir honte en tout cas de mener une telle politique migratoire.
Bah alors, mener une telle politique, moi je pense personnellement, et même je suis persuadée au regard de l'usage des lois précédentes, qu'une loi, ça ne sert pas à grand chose en matière de gestion ni de l'asile, ni de la migration. Qu'est-ce qui sert à quelque chose en termes d'asile? C'est de mettre des moyens pour que les demandeurs d'asile ils puissent s'inscrire, ils puissent faire leur demande et qu'on puisse leur donner une réponse. Donc c'est une question de moyens. Aujourd'hui, ces moyens ne sont pas mis, il n'est pas question d'argent dans cette loi.
Il est question de temps.
Tout à fait. Mais le temps, c'est de l'argent aussi, comme on le sait. Et quand on augmente les moyens en nombre de fonctionnaires, ça leur permet de déposer l'asile. Qu'est-ce qu'on peut faire autrement en termes de gestion globalement de politique migratoire? Là, on n'a pas grand-chose non plus. Et il faut savoir aussi, vous avez vu la une du Parisien ce matin, le nouveau Calais pour le campement qui est à Paris. On est dans la réinstauration des campements. Pourquoi? Parce que cette loi, elle est hors sol et qu'elle ne traite pas le problème qui est aujourd'hui sur le terrain de l'arrivée de ces gens et de la non-prise en compte de leurs demandes.
Et comment devrait-elle traiter le problème, Aude Lancelin, cette loi? De quelle politique d'immigration est-ce qu'on a besoin aujourd'hui?
Alors, il faudra en venir à la question de l'Europe, mais c'est peut-être votre intention plus tard. Mais c'est vrai que le texte est incontestablement déséquilibré entre la répression et l'accueil. Alors que revenons-en à la réalité des chiffres, en fait de submersion, la France, le défenseur des droits, Jacques Toubon, qui fait quand même un travail extraordinaire depuis quelques années, il l'a rappelé, n'est que le 16e pays en termes d'accueil de l'Union. La France a accueilli un demandeur d'asile sur 5 seulement. Alors que un demandeur d'asile sur 15, alors que il y a quelques années c'était 1 sur 5. La France a une politique de plus en plus crispée et répressive sur la question migratoire, loin de sa tradition d'accueil, d'hospitalité et de pays des droits de l'homme. On n'est plus que dans la fiction lorsqu'on prononce ces mots-là. Et Brice Couturier, tout à l'heure, parlait d'un alignement entre La République en marche et la droite. Mais en réalité, on voit bien qu'il y a une espèce de vocabulaire commun, d'approche commune entre Front National, LRM et droite aujourd'hui, puisque il y a la construction d'une menace migratoire, d'un risque de grand remplacement qui est installé maintenant par la loi elle-même dans les esprits.
Brice Couturier,
justement pour parler des chiffres, on se focalise sur les 100 000 demandes d'asile de cette année. On a quand même 100 000 demandes d'asile, mais c'est une petite partie de l'immigration. La réalité de l'immigration, c'est les chiffres qui sont donnés par les premiers titres de séjour. Et les premiers titres de séjour se montent à 260 000 l'année dernière. Donc on voit bien que l'immigration est très importante. Et on voit bien aussi que le gouvernement est obligé de tenir compte aussi de l'opinion de la population. Car quand on regarde les sondages, on voit que le dernier sondage Ipsos, trouvez-vous que dans votre pays l'immigration a un impact positif? Oui, 21%, négatif 42%, ne c'est pas 34%. On a encore 53% de sondés qui pensent qu'il y a trop d'immigrés en France, et vous avez 40% de la population qui voudrait fermer nos frontières entièrement aux réfugiés. Donc voilà les chiffres. Un gouvernement démocratique doit tenir compte de l'opinion de sa population. Il ne peut pas s'aligner systématiquement sur les associations qui sont très sympathiques, mais qui ne représentent pas l'opinion majoritaire. Donc il est important de suivre l'opinion majoritaire en démocratie.
Alors est-ce que la politique migratoire en France devrait, Brice Couturier soulève une question intéressante, devrait justement plus s'appuyer sur les associations et sur la société civile, parce que le discours de l'État, c'est on ne peut pas tout porter. Or, il y a toute une partie de la société civile qui se dit prête, elle, à porter.
Alors, le grand malentendu, il est justement là. Parce que vous donniez le chiffre de 260 000 premiers titres de séjour. C'est vrai. Et alors, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que c'est quelque chose d'assez constant. Bon, ça monte un peu. On ne peut pas dire le contraire. On a passé le cap des 200 000 il y a une petite dizaine d'années. 260 000. À l'intérieur de ces 260 000, qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y a nos 40 000 demandeurs, nos 40 000 réfugiés à peu près. Mais donc, on voit bien que ça n'est pas le gros bloc. Le premier bloc, c'est 90 000 personnes qui viennent là pour des raisons familiales. à l'intérieur de ces raisons familiales, alors tout le monde pense, oulala, c'est épouvantable, c'est le regroupement familial. Non, la première cause, 50 000 personnes viennent de droit parce qu'ils épousent un ressortissant français. Donc ceux-là, on ne va pas leur dire, non, vous ne pouvez pas rentrer en France, excusez-nous, on voudrait fermer les frontières. Ce n'est pas possible.
Ressortissant donc, français qui est lui-même souvent un immigré, hein, il faut quand même dire les choses.
Pas forcément.
Dans un très grand nombre de cas.
Ça peut arriver, mais qu'est-ce qui les empêche
non,
de,
bien sûr.
Vous voyez, on ne peut pas choisir leur conjoint à leur place. Il y a aussi 80 000 étudiants. Est-ce qu'on veut attirer les cerveaux ou non? Donc, d'accord, fermer les frontières, mais on se bat en même temps pour faire venir des gens qui sont l'avenir et qui vont rebooster un peu notre pays. Donc, ils sont là, on est très contents, et ça fait partie de l'immigration choisie. Donc, vous voyez bien que les choses, elles sont beaucoup plus compliquées.
Moi, j'ai 30 000 étudiants dans mes chiffres.
Vérifiez vos chiffres.
Ah bon.
Des GEF, c'est entre 70 000 et 80 000. Donc, avec...
Et qui sont pas compris dans les 260 000.
Bien sûr, ils sont compris dans les 260 000. C'est d'ailleurs un des vrais problèmes, parce que pourquoi est-ce qu'on compte les étudiants dans les premiers titres de séjour alors qu'ils ne sont pas forcés de rester dans le pays et qu'en fait on donne avec tout ça aux gens l'idée qu'il y a, oui, beaucoup de gens qui rentrent en France et qu'il faut contrôler tout ça. Donc moi je crois qu'il y a réellement derrière tout ça quelque chose d'impossible, que les politiques pensent qu'ils peuvent gérer ces flux migratoires, mais qu'ils ont une marge de manœuvre qui est réellement étroite. Elle existe sur les 20 000 personnes qui vont venir pour le travail, les migrants économiques. Oui, là, ils ont...
Depuis tout à l'heure, on tourne autour de l'idée que la France a une histoire et une tradition d'accueil, est présentée comme un pays d'accueil et des droits de l'homme. Est-ce que si la France portait un peu plus cette histoire, elle aurait une autre politique migratoire? Est-ce qu'elle pourrait assumer une autre politique migratoire, Aude-Lancelin?
Oui, c'est-à-dire que cette politique migratoire, elle est à penser dans un climat français et un climat qui ne date pas...
Par opposition à un climat européen, vous voulez dire ?
Non, parce que le climat européen se gâte aussi dans beaucoup de pays. Mais c'est vrai que quand on voit maintenant même chez les intellectuels, quand on voit le texte récemment, la pétition récemment parue sur le séparatisme islamiste... que même des organisations aussi radicales que Riposte Laïque ont salué et dont elles ont même dit qu'ils étaient en retard par rapport à leurs préconisations du début des années 2000, et qu'on voit que des noms de la politique et des noms de l'intelligentsia y sont associés, on se dit que le climat est délétère dans ce pays, avec un texte plein d'amalgames qui mélange absolument tout sur la question des musulmans. Donc... Oui, il y a un climat qui s'est installé au cours des années 2000, notamment en France, sous Nicolas Sarkozy, qui porte dans cette affaire une grande responsabilité. Et justement, je pense que l'aventure du quinquennat de Nicolas Sarkozy montre que ce n'est pas en gagnant sur le terrain de l'extrême droite qu'on opère, qu'on fait revenir les gens, les électeurs, les Français, vers des idées plus raisonnables et plus réalistes, finalement, quand on voit les chiffres de l'immigration qui sont finalement assez faibles sur ces questions-là. Et que c'est ainsi, au contraire, qu'on les maintient dans le fantasme, qu'on fait même enfler ces fantasmes-là.
Plusieurs voix à gauche disent d'ailleurs que Emmanuel Macron est allé plus loin que Nicolas Sarkozy, même s'il a du mal à l'assumer.
À cet égard, le discours politique porte une responsabilité énorme.
Le discours politique, Brice Couturier, aujourd'hui sur la politique migratoire, quelle responsabilité porte-t-il pour faire suite aux propos d'Aude-Lancelin ?
Je pense que la grande responsabilité des politiques, ce serait de tenir compte de l'opinion publique.
Et c'est déjà le cas.
Non, on en est très loin. Les demandes de l'opinion publique, je vous le disais tout à l'heure, sont en faveur d'une fermeture de l'immigration. On est à 260 000 immigrés par an.
Le fait est qu'on ferme
est
de très, plus
très
en loin. Plus, qu'on est de
non,
plus en plus dans une
optique de fermeture
des frontières.
Non, on ne ferme pas de plus en plus parce que ces chiffres, contrairement à ce qu'on entendait tout à l'heure, sont en hausse régulière. On est passé très précisément de, parce que j'ai les chiffres sous les yeux, de 120 000 en 1997 à 260 000 premières demandes de séjour. Donc ça montre bien que cette chiffre, et quant aux chiffres de demandes d'asile, vous savez sait très bien, ils sont en augmentation constante et très rapide. Donc c'est pas vrai qu'il y a une fermeture. C'est un mythe agité par les gens de gauche qu'il y a une fermeture et qu'il y a une Europe qui se ferme à l'immigration. L'Europe a besoin d'immigrés et elle en importe régulièrement. Ça pose d'ailleurs pas mal de problèmes aux pays de départ parce qu'ils sont en train de perdre une partie de leur population la plus dynamique, la plus diplômée et la plus motivée. Il faudrait lire le livre de Stephen Smith qui vient de sortir sur le défi qui vient de l'Afrique, parce que vous avez une démographie qui est galopante et vous avez des élites qui fichent le camp. C'est très inquiétant pour eux, c'est très inquiétant pour nous. Donc non, moi je suis en désaccord total avec ce qui vient d'être dit, évidemment, comme souvent à cette table, mais hélas je ne peux pas occuper la position centrale puisqu'il n'y a personne de droite en face de moi, mais moi je défendrai ce projet de loi parce qu'il me paraît quand même assez raisonnable et pas du tout infâme comme ce que j'entends jusqu'à présent. Et je trouve que le fait qu'il a été dénoncé comme inefficace et idéal et naïf par la droite et inhumain et immoral par la gauche montre qu'on est plutôt sur la bonne voie.
Jacques Toubon, défenseur des droits, a dit, lui qui réprouve ce texte de loi, dit que la situation actuelle n'appelle pas de loi nouvelle. C'est aussi votre avis, Marie-Line Baumard, vous qui n'êtes ni de gauche ni de droite dans ce débat, mais juste l'experte de terrain.
Vous travaillez au Monde quand même.
Et alors ?
Il y a le Monde, il y a le Figaro, on peut avoir toutes sortes de points de vue.
Oui. On a invité Marie-Line Baumard pour apporter son expertise du terrain.
Voilà. Donc, redonnez-moi votre question.
Donc Jacques Toubon, oui. Le défenseur des droits, oui, disait voilà. Que...
À quoi va servir cette loi ?
Voilà, à quoi va servir cette loi ?
À rien. Pourquoi ? Parce que, alors déjà, la loi de 2016, on n'en a même pas fait l'évaluation. Il y a eu une loi en 2015, ça fait 3 ans que je suis cette rubrique. C'est ma 3e loi que je suis à l'Assemblée sur le sujet. Donc il y a quand même un petit peu un problème. La loi de 2015, loi asile, promettait que les gens seraient inscrits sous 10 jours, pourraient demander leur asile sous 10 jours. Le préfet de police de Paris a été condamné 135 fois en 2 semaines parce qu'il ne respectait pas cette loi et il ne s'est rien passé, ça continue pareil. Donc on voit bien qu'on est dans une spirale où les lois, elles sont faites pour montrer les biceps, elles sont faites pour montrer que ce sujet, nous les politiques, on le maîtrise, on s'en charge, ne vous inquiétez pas, citoyens, dormez tranquille. Mais en définitive, ce qui se passe, c'est que la gestion, elle se passe sur le terrain. Elle se passe beaucoup dans les tribunaux administratifs. Pourquoi ? Parce que les préfets ne respectent pas la loi. Et qu'ensuite, tout ça, ça fait du contentieux. Ils vont au tribunal administratif. Beaucoup de choses remontent au Conseil d'État. Ça remonte ensuite au Conseil européen, à la Cour européenne des droits de l'homme. La France est condamnée. Et qu'est-ce qui se passe ? Bah rien, ça continue. Et c'est exactement ce qui s'est passé, par exemple, pour la rétention des enfants. Parce que notre ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a refusé qu'on l'interdise dans la loi. Mais c'est tout de même un sujet pour lequel on a été condamné 6 fois en 2016 par la Cour européenne. Et il n'y a jamais eu autant d'enfants en rétention qu'il n'y en a depuis 2017. Donc vous voyez bien, il y a la loi, il y a ce qu'elle dit, il y a ce qu'elle veut faire croire. Et puis il y a ensuite le terrain, et tout est comme ça en termes migratoires.
Dans cette loi asile et immigration, il y a un volet asile et immigration, il y a un volet intégration. Premier volet de cette loi, les premiers articles concernent le renforcement des droits des personnes qui obtiennent le droit d'asile, et donc c'est le mot intégration qui avait plutôt disparu du discours politique depuis 2012, il est en train de réapparaître. On a l'impression que le mot qui est en train de disparaître plutôt en ce moment, c'est le mot d'accueil. Brice Couturier, sur cette question.
Écoutez, ma réponse, c'est l'interview d'Hubert Védrine au Figaro d'hier. Il a dit quelque chose de très fort. Il dit le problème en ce moment, c'est que les Européens perdent confiance dans les institutions de l'Union européenne parce que ces institutions donnent l'impression aux peuples européens que l'Union est une passoire. Et que tout le monde peut, que c'est un espace de libre circulation dans lequel chacun peut s'établir. Et c'est une lourde responsabilité parce que quelque chose est en train de se passer en Europe qu'on mesure mal vu d'ici entre intellectuels de gauche, si vous voulez. C'est que il y a toute l'Europe centrale qui est en train de passer du côté des populistes pour cette raison de l'immigration, parce qu'ils n'en veulent pas tout simplement et qu'on ne peut pas les forcer à prendre leur part du fardeau comme on leur a dit. D'autre part, vous avez des élections qui ont eu lieu en Italie qui ont donné le pouvoir à des partis qui sont foncièrement hostiles à l'immigration, foncièrement hostiles à l'Union européenne et parfaitement populistes. C'est eux qui ont gagné les élections. Vous avez en Autriche un gouvernement qui associe un parti de droite classique avec l'extrême droite, et l'Union européenne ne bronche pas face à ce problème, alors qu'elle avait déjà, elle était intervenue quand le même phénomène s'était passé en Autriche. Et voilà. Est-ce qu'on veut? Et puis vous avez le premier parti d'opposition en Allemagne, c'est l'AfD, qui est un parti populiste fascisant. Donc on a vraiment face, on est face à une vague populiste qui, contrairement à ce qu'on pouvait croire en France grâce à l'élection d'Emmanuel Macron, n'est pas stoppée, nullement stoppée. Et la principale raison de cette vague populiste, c'est la crainte d'émigration, c'est la peur de l'immigration. Et je pense qu'il faut donner une réponse à cette crainte si on ne veut pas
que l'ancien...
Eh ben, effectivement, une politique migratoire beaucoup plus sévère que celle qu'on a aujourd'hui, contrairement à ce qui est dit autour de cette table, est beaucoup plus en rapport avec ce que demandent les populations. On ne peut pas continuer à se moquer de la demande majoritaire, refléter par tous les sondages, en disant vous êtes immoraux et vous êtes xénophobes et vous êtes racistes. Il faut écouter les peuples quand ils vous disent qu'ils n'ont pas envie de changer d'identité.
Une politique migratoire plus sévère pour répondre à la hausse des populismes en Europe, Marine Baudemin ?
Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu vieux modèle dans cette façon d'appréhender les choses ? Parce que quand on regarde sur le terrain ce qui s'est passé, moi je suis allée dans des villages qui ne voulaient pas recevoir de migrants, où on a eu des manifestations des identitaires et autres avant l'arrivée de ces personnes. C'était où ? C'était dans des campagnes où il y avait déjà très peu de populations d'origine étrangère. Une fois que ces gens afghans, soudanais et autres sont arrivés, ça s'est toujours très bien passé. J'y suis retournée après. Je suis retournée, par exemple, j'ai oublié le nom de ce village, mais en tout cas dans plusieurs lieux, et ils étaient très contents d'avoir cette population nouvelle, même si réellement avant ils avaient manifesté, ils avaient insulté le préfet et autres. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on aurait agi différemment en septembre 2015, lorsque il s'est agi d'aider ou non d'aider la chancelière à accueillir tous ces gens qui arrivaient, si on avait réparti sur le territoire, mis dans chaque village. Et à l'époque, il y avait beaucoup de maires qui étaient volontaires. Il y a eu une grande réunion à la Maison de la Chimie où beaucoup de maires étaient là. Ensuite, ils ont perdu face science. Pourquoi ? Parce que le gouvernement de l'époque a réellement joué les bricolos et a été incapable, c'était Cazeneuve à l'époque, au ministère de l'Intérieur, a été incapable d'amener des gens et de les mettre dans les villes alors que les maires étaient prêts à recevoir. Et je pense qu'on aurait écrit une page différente de l'histoire si on s'y était pris de la sorte. Et je pense, c'est pour ça que je vous dis, excusez-moi de me permettre ça, mais c'est un peu vieux modèle. Pourquoi ? Parce que justement, il faut essayer de comprendre pourquoi. Et c'est une crainte de l'étranger. C'est pas un ras-le-bol dont on a trop d'étrangers dans le village, c'est une crainte de l'inconnu. Pourquoi ? Parce que oui, il y a des laissés pour compte dans ce pays. Il y a des gens qui pensent, réellement, moi j'ai pas de boulot, je suis vraiment le dernier dans tout ça. Quand on leur amène des Soudanais et qu'ils leur racontent ce qu'ils ont vécu, croyez bien que ça change aussi la hiérarchie du malheur et que, au final, le résultat est pas le même et qu'il y a un peu une ouverture d'esprit qui se crée.
Je voudrais juste, avant de vous entendre, Brice Couturier, entendre Aude Lancelin sur la question, est-ce que cette loi et asile immigration, au lieu de répondre aux peurs de la population, en exploite quelques-unes et fait justement que et présente les résultats de cette loi comme diminuant le nombre de réfugiés, de demandeurs d'asile, alors qu'en vérité, elle joue plutôt sur des émotions.
Oui, non, mais on sait tous que ce ne sont pas à partir des remontées du terrain que des lois pareilles sont votées. Hein. Bien souvent, le phénomène est même inverse. On part de la représentation nationale, du discours politique et intellectuel, et celui-ci influe beaucoup sur les représentations populaires. Pour compléter le tableau très sombre que Brice Couturier vient de dresser de la situation européenne, mais on n'en tire pas les mêmes conclusions, il y a aussi un retour des milices quand même, phénomène extrêmement inquiétant. On en a eu un exemple
la
récent
semaine dernière.
Avec Génération Identitaire, qui n'est pas un mouvement comme les autres, qui est quand même une résurgence d'unité radicale. Un groupuscule qui avait projeté d'assassiner Jacques Chirac au début des années 2000. Donc, alors maintenant, certes, il se limite à des actions très spectaculaires, mais qui ne les expose pas à des poursuites, enfin qui devrait d'ailleurs les exposer à des poursuites judiciaires, mais enfin qui ne les expose pas à la même gravité de poursuites. Mais voilà, on a ça, on a Obdoré qui montre la voie depuis des années en Grèce, et l'on voit ce qui se passe quand une situation économique dégénère totalement dans la zone euro. Donc tout ça, ce sont des phénomènes à prendre en compte. Je ne pense pas que ce soit en disant « on va écouter les demandes de ces gens-là » qu'on réglera le problème et qu'on rendra à la zone européenne une véritable sécurité dans le domaine des migrations.
L'action justement de Génération Identitaire la semaine dernière à Briançon, du côté de Briançon, ne montre pas qu'il y a là un vide laissé par la politique.
Oui, c'est ce qu'a dit Gérard Collomb tout de suite. Hein. Il a dit, il s'est gardé.
Il l'a dit, mais il est quand même ministre de l'Intérieur.
Oui, si vous voulez, mais ça prouve qu'effectivement on a un problème. Mais on est dans la zone Schengen, donc on n'a pas non plus à fermer nos frontières. On est dans une zone de libre circulation.
On ne parle pas du même problème alors.
D'accord. Oui, enfin ça, c'est les immigrés.
Je parlais plutôt de protection des personnes qui n'ont pas encore le statut de réfugiés et qui arrivent sur notre sol.
Oui, c'est évident que Génération Identitaire est tout à fait en illégalité, mais je précise que d'autres associations qui ont passé en force un barrage de police aussi le même jour d'ailleurs, des militants d'extrême gauche qui ont aidé des migrants à passer en force depuis l'Italie, étaient tout aussi fautifs et tout aussi coupables au regard de la loi française. Donc ça s'équivaut. Mais si vous voulez, le problème, c'est qu'on voit bien avec ces deux mouvements, avec à la fois l'extrême gauche qui essaye de faire passer en force et une extrême droite qui essaye de les empêcher, que c'est le rôle de l'État que de gérer les flux, les passages de frontières. C'est pas le rôle de milices, qu'elles soient d'extrême gauche ou d'extrême droite. Mais on oublie toujours de condamner l'extrême gauche et pas l'extrême droite.
En l'occurrence, je suis pas sûre qu'on puisse opposer une action d'entraide une action.
Vous appelez ça une action d'entraide. Moi, j'appelle ça une action illégale, violente, bousculant les forces de police qui étaient sur leur passage. J'ai vu des vidéos qui sont assez éloquentes dans ce domaine.
Est-ce que le gouvernement français est obligé de s'aligner, Marilyn Baumard, sur une pratique migratoire européenne focalisée sur la gestion des flux, comme c'est le cas en ce moment ? Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre focale à adopter ?
À mon avis, on est même moteur aussi dans ce que l'Europe va produire comme texte. Donc il faut peut-être, là encore, inverser la machine et arrêter de se dire « c'est la faute à l'Europe », mais se dire « comment est-ce que nous, la France, on agit pour que les textes produits par l'Europe ?» Parce que l'Europe, c'est pas une entité, voilà, c'est quand même les pays qui la composent. Donc nos gouvernants et nos élus sont réellement présents sur le sujet. Et c'est vrai que, alors oui, on transpose des textes, mais avant de les transposer, faut les écrire. Et je pense que c'est là, et là on sait qu'il y a une nouvelle vague de textes sur ces fameux accords sur Dublin.
Ils vont se rencontrer en juin ?
Oui, tout à fait. Et il y a eu un texte important qui a été tout de même voté hier et qui parle, alors on ne va pas rentrer dans les débats techniques, mais de ces fameux pays tiers sûrs. Et pour le moment, c'est quelque chose qui est facultatif. Donc on va voir quelle attitude aura ensuite la France, puisqu'on sait que dans la première mouture du projet de loi, ces fameux pays tiers sûrs, alors juste pour expliquer en un mot, ça, en gros, c'est la fin du système de l'asile en Europe, parce que ça veut dire que les pays qui sont autour de l'Europe garderont les demandeurs d'asile qui les auront traversés. Donc là, on sera tranquille et entre guillemets, il n'y aura plus beaucoup de demandeurs d'asile. Je veux juste revenir à une chose tout à l'heure. Très rapide. Sur l'écriture de la loi. Les gens qui ont écrit cette loi aujourd'hui, en fait, c'est quasiment les mêmes que ceux qui ont écrit la loi sous Cazeneuve. Il faut bien le savoir. Et quand on regardait les chiffres tout à l'heure, il y a une immense continuité depuis Sarkozy jusqu'à aujourd'hui qu'on essaie de nous vendre, nous emballer dans des packages différents. Mais en définitive, là réellement, la Direction Générale des Étrangers est aujourd'hui dirigée par l'ancien directeur adjoint de cabinet de Bernard Cazeneuve et le directeur de l'asile et l'ancien conseiller de Manuel Valls et de Bernard Cazeneuve sur l'asile. Donc vous voyez, voyez le résultat et vous voyez le mélange des genres.
Aude Lancelin, pour conclure très rapidement.
Oui,
de responsabilité des États, de l'État français.
Oui,
l'État
mais je dirais que la vraie question, c'est de savoir est-ce qu'on vit une crise migratoire exceptionnelle ou est-ce qu'on vit une crise de la solidarité européenne exceptionnelle.
En tout cas ce que semble montrer l'ensemble de la politique migratoire européenne.
Et vous parliez, Marilyn Baumard, des accords de Dublin. C'est vrai qu'ils font peser sur les pays du Sud à l'heure actuelle des responsabilités intolérables que nous laissons faire, nous, la France notamment.
Et peut-être donc vers une remise en cause des accords du Dublin pour assumer une bonne fois pour toutes sa politique migratoire. Merci à vous tous, Aude Lancelin, Marilyn Beaumard, Brice Couturier. On peut réécouter, podcaster le Club des idées du Grain à Moudre sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Merci à l'équipe de l'émission, Antoine Dulster, Antoine Tricot, Fanny Richer, Virginie Leduo, Prune, Saez Contreras, Liscom à la réalisation, accompagné à la prise de son ce soir de Pierre Monteil, Stéphane Touvenin, Lidwin Caron et Sofiane Aktib. Je profite de cette fin d'émission pour rappeler rapidement à nos auditeurs la tenue au Centre Pompidou ce week-end du festival Imagine, où l'on pourra aussi retrouver Arnaud Laporte, que l'on retrouve tout de suite. Bonsoir Arnaud.
Oui, avant de passer le week-end à Beaubourg, on finit quand même la semaine au Bel Air. C'est pas trop mal passé, Émilie?
Ça va, je suis vivante et entière.
Vous êtes entière. Merci à vous, Émilie. La semaine prochaine, Hervé Gardette
revient avec le sujet dépistage génétique, mieux vaut prédire que guérir.
Bon, on sera là aussi. Dans quelques minutes, une dispute consacrée au cinéma, mais tout de suite, les titres de l'actualité avec Louis Valentin Lopez.